I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Maxime, mon habituel fidèle compagnon sur cette émission, n'est pas des nôtres aujourd'hui. Il a préféré prendre ses quartiers à Deauville, un endroit qui lui ressemble. Bling bling, arrogant et tape à l'œil, c'est tout à fait Maxime. Pour le remplacer, mon autre fidèle compagnon d'un autre genre, celui qui préfère le pâté au caviar, le bouchon lyonnais à l'étoilé normand, Savanier à Cristiano Ronaldo. Ses valeurs, l'humilité, le travail. Il a grandi à l'école Jérémy Clément et il est un peu le Florent Balmont d'Eurosport. Mais ça va nous faire du bien, beaucoup de bien, d'avoir un tout petit peu d'humilité dans cette émission trop souvent gangrénée par l'ego de Maxime Dupuis. Comment ça va, monsieur Cyril Morin ?
Bah écoute, ça va, j'espère que j'aurai la même longévité au plus haut niveau que Florent Balmont quand même. Parce que
ah, j'ai cru t'allais dire que Maxime Dupuis, parce que Maxime Dupuis, il a encore une plus longue longévité, Maxime.
Je ne me permettrai jamais, Martin, tu me connais.
Alors, attends, on a un petit souci technique, excuse-moi, il y a mon oreillette qui est tombée, mais c'est pas bien grave. De quoi on va parler aujourd'hui, Cyril ? On va évoquer d'abord Kylian Mbappé, la prolongation de Kylian Mbappé et surtout la mise sous pression de Leonardo chez nos confrères de France Bleu Paris, qui a dit tout simplement qu'il fallait un moment que Kylian se décide et qu'il fasse savoir sa décision. On va évoquer cette prolongation et tout ce que ça implique du côté du Paris Saint-Germain et pourquoi Leonardo a eu cette sortie-là cette semaine, Cyril. Deuxième sujet, on parlera de Marseille-Lyon, le match de dimanche en Ligue 1.
Absolument, le choc de Ligue 1. On reviendra évidemment sur la rivalité Marseille-Lyon, OM-OL, le fameux Olympico. On va se demander tout simplement, Martin, si la rivalité n'a pas finalement desservi l'Olympique de Marseille et à quel point le modèle lyonnais paraît encore un petit peu plus solide que celui appliqué à l'OM. Et on terminera, Martin, cette émission par s'envoler de l'autre côté de l'Atlantique, si je ne dis pas de bêtises.
Le Québec, parce qu'on va, rien dévoiler, on va tout dévoiler à ceux qui nous écoutent. Il y a Cyril qui m'a fait une petite imitation tout à l'heure de l'accent québécois. Alors, je ne vais rien vous cacher, c'est une note WhatsApp. Je vais vous la faire écouter, j'espère qu'on va bien l'entendre.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Voilà, donc ça, c'est l'accent québécois selon Cyril, parce qu'on va évidemment parler de Thierry Henry. Et on a eu un invité de marque, puisque c'est le journaliste qui a le plus suivi Montréal, qui a commenté les matchs sur TVA, la radio du Canada, du Québec, sur donc les matchs de Montréal. Il avait Thierry Henry régulièrement au téléphone. Et on va se poser cette question, quel héritage laisse Thierry Henry là-bas ? Quel est son bilan ? Quelle est la trace Thierry Henry ? Parce qu'on sait qu'en France, on est très critique vis-à-vis du meilleur buteur de l'histoire des Bleus, parce qu'à Monaco, ça ne s'est pas forcément bien placé. Et ben, on va voir que de l'autre côté de l'Atlantique, on a une lecture tout autre de Thierry Henry, entraîneur. Ce sera en fin d'émission. Le programme est chargé, comme jamais, Cyril.
Et oui, programme chargé. Et rappel à toutes les unités, ce podcast est à retrouver toutes les semaines, tous les vendredis, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, commenter, partager.
Et même les mauvaises plateformes d'écoute.
Même les mauvaises, tout à fait. Et faites grandir la communauté FC Stream Team. Et évidemment, comme chaque semaine, les meilleurs moments sont à retrouver en vidéo sur le site d'Eurosport.fr.
On a fait le tour, je crois qu'on va pouvoir y aller. On vous rappelle que vous nous retrouvez sur Facebook pour voir nos bobines et voir l'intégralité de cette émission. Tu l'as dit, si vous ne voulez que l'audio, ce sera sur les bonnes et mauvaises plateformes de podcast et les meilleurs moments de l'émission. Donc sur le site, on y va. Cyril, on parle de la prolongation de Kylian Mbappé et surtout de Leonardo. Alors, est-ce que Paris a des raisons de presser Kylian Mbappé ? On va d'abord vous rappeler les déclarations de Leonardo. C'était donc sur France Bleu, Paris-Île-de-France. C'était cette semaine. Leonardo qui a dit donc à nos confrères, on arrive au moment où on doit prendre une position et une décision. Sous-entendu, Paris doit bâtir son projet sportif pour la saison prochaine. Et celui-ci dépendra évidemment de Kylian Mbappé. On rappelle aussi Kylian Mbappé, Neymar, les deux joueurs sont en fin de contrat le 30 juin 2022, soit dans un an. Donc, s'ils ne prolongent pas, il faudra les vendre cet été. Donc, vous comprenez pourquoi c'est urgent pour le Paris Saint-Germain. Parce que soit on construit une équipe avec Kylian Mbappé, soit il va falloir le remplacer par un ou deux joueurs. A priori, la prolongation de Neymar, ce sont des sources brésiliennes, est en bonne voie. Quid de Kylian Mbappé, Cyril, est-ce que Leonardo a raison de presser son avant-centre?
Oui, si on prend la question telle quelle, oui, Leonardo a raison de presser son avant-centre. La pire chose pour le PSG, ce serait d'être prisonnier de la décision de Kylian Mbappé pendant plusieurs mois encore. Faut rappeler qu'un effectif ne se construit pas à partir du mois de mai, mais que ça commence bien avant, donc janvier, février, mars, et que fatalement, avec ou sans Mbappé, les possibilités et l'effectif, les contours de l'effectif sont complètement différents au Paris Saint-Germain. Donc oui, Leonardo, il est dans son rôle de presser Kylian Mbappé, et surtout, il a raison de le faire maintenant, parce que le Paris Saint-Germain est dans une forme de zénith après sa victoire face au Barça au Camp Nou. On est sur une période sportive qui est intéressante à Paris. Il y a des projections pour un printemps européen intéressant.
Après, Cyril, je te rappelle que Kylian Mbappé, au micro de nos confrères de RMC Sport, disait « Oui, mais ce n'est pas ce match qui va changer ma destinée. Ce n'est pas parce qu'on a gagné contre Barcelone que je vais prolonger. De la même façon, si on avait perdu, ce n'est pas ce qui aurait précipité mon départ. »
Alors, s'ils avaient perdu 4-0 face à ce FC Barcelone-là, j'ai comme un doute, parce que je pense que ça aurait mis un vrai frein sur l'ambition parisienne et les capacités parisiennes en Europe. Là, le message, il a été sportif, mais il a été aussi politique. Aller gagner 4-1 sans Neymar, avec un triplé de Mbappé sur le terrain d'un ancien grand club, en tout cas sportif, ou en tout cas un ancien géant européen en Ligue des Champions, le message n'est pas le même. Donc pour moi, le moment, il est idéal pour Leonardo pour lancer cette offensive-là. Et puis, on est aussi en coulisses sur un jeu politique très intéressant, parce que Leonardo, il sait que s'il arrive à prolonger Neymar, s'il arrive à prolonger Mbappé dans les semaines ou dans les mois qui viennent, il va frapper très très fort là où tous ses adversaires, entre guillemets, sont dans le dur, sont dans un moment faible. Je pense au Real Madrid, je pense au FC Barcelone. Si Paris arrive à prolonger ces deux stars-là, qui sont aussi les stars de l'avenir, on va avoir une lisibilité du projet parisien sur le moyen terme qui va être très compliqué à égaler pour le Real, pour le Barça, mais même pour beaucoup d'autres clubs. Et que donc Paris, fatalement, dans le petit jeu de domino et d'échecs qui se joue au niveau géopolitique, restera une place forte du mercato et du foot mondial en général.
Au niveau des liaisons, c'est pas Cyril Morin liaison aujourd'hui. Hein. C'est une catastrophe, mais bon, bref. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que s'il dit ça, c'est qu'il se sent fort, Leonardo. Il se sent fort pour plusieurs raisons. Tu l'as dit, sur le terrain, il y a eu une démonstration face au FC Barcelone. Il se sent fort aussi vis-à-vis du Real Madrid, parce qu'il sait que cette pandémie, elle contrarie les plans du Real Madrid. Le Real est dans une logique, en tout cas, de fin de cycle, et on essaye de remettre en place une équipe compétitive à Madrid depuis plusieurs années. Et le sommet de cette stratégie-là, ça devait être l'été 2020 ou l'été 2021, mais c'est constamment retardé par la pandémie de Covid-19 qui a complètement fragilisé le marché des transferts, qui a fragilisé aussi les finances des grands clubs. Et le Real Madrid n'échappe pas à la règle. Donc Leonardo, il sait qu'il est fort. Il sait qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir Kylian Mbappé dans son équipe plutôt que d'essayer de le courtiser, parce que ça va être très compliqué avec cette pandémie-là. Et la pandémie, en plus d'avoir chamboulé l'équilibre financier, parce que sans cette pandémie, sans doute que le Real aurait un pouvoir d'attraction beaucoup plus fort, financier, mais aussi sportif. Ouais. Parce qu'on voit que le Real, que cette pandémie-là, notamment en soumettant les joueurs à des cadences infernales, donc c'est beaucoup moins lisible les rapports de force en Europe. C'est beaucoup moins lisible. Jusqu'ici, c'était très simple, même si avant la pandémie, c'était... je caricature un petit peu, mais... En gros, il y avait des puissances européennes, deux plus grands clubs européens du 21e siècle, c'était le Barça et le Real. Et il était clair que le Paris Saint-Germain était très loin. Et il était clair que Kylian Mbappé allait continuer, allait progresser là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi clair que Kylian Mbappé progresserait en rejoignant le Real Madrid? Non, financièrement, on en a parlé. Sportivement, le Real en Liga, l'écart, il est beaucoup moins net avec les autres équipes. Vous me direz Paris avec la Ligue 1 aussi, mais Paris est finaliste de la Ligue des Champions. et Leonardo, il se sent fort. Il se sent fort vis-à-vis du Real. Et donc, il se sent fort vis-à-vis de Kylian Mbappé. Quelque part, il lui dit, Coco, si tu vas au Real Madrid, tu sais que tu prendras sans doute un plus grand risque que si tu es ici où Neymar va prolonger, où tu connais les mecs, où tu as été finaliste de la Ligue des Champions. Alors après, il y a cette histoire de clause, Cyril, dont on parle beaucoup dans la presse. Ouais. C'est ce que j'aurais voulu aussi aborder avec toi. Qu'est-ce que veut Kylian Mbappé ? Il veut un salaire qui se rapprocherait de celui de Neymar pour prolonger, mais aussi une clause pour partir quand il le souhaite, notamment du côté du Real Madrid. Quelle est la valeur de cette clause ? En France, elle est nulle parce qu'on sait que ces clauses-là n'ont aucune valeur juridique, légale, peu importe. Est-ce que ça peut être, on se tape dans la main, on se le promet les yeux dans les yeux avec Leonardo ou avec les dirigeants du Paris Saint-Germain ? Ce serait un aveu de faiblesse du Paris Saint-Germain parce que ce serait un pari à court terme, en fait. Ce serait de dire, OK, on prolonge Kylian Mbappé, ce qui veut dire qu'on le garde une saison de plus, ce qui n'est pas acquis s'il ne le prolonge pas. Et on le vendra plus cher parce que son bail sera étendu, donc sa valeur sera plus grande. Mais tu restes esclave des désirata de ton joueur. Et donc, quelque part, il devient plus grand que l'institution. Est-ce que Paris serait prêt à mettre le destin de Mbappé uniquement entre les mains d'Mbappé parce qu'il choisirait à partir de la saison prochaine? Moi, ça me paraît périlleux, d'autant que ça n'a aucune valeur légale.
Ouais, alors on peut le lire aussi dans l'autre sens, Martin. On peut aussi lire cette clause comme une acceptation par Kylian Mbappé que finalement le Real sera dans l'incapacité de venir le chercher cet été. On le disait, mais il faut aussi se souvenir que il y a quelques semaines, Marca avait fait un gros papier sur le cas Mbappé, précisant que le Real n'était pas spécialement en capacité financière de lui offrir un salaire aussi beau que celui que Paris aurait à lui offrir. Donc Mbappé disait, OK, de toute façon, si je suis la star du Real Madrid, j'en gagnerais aussi beaucoup plus en termes d'exposition médiatique, donc de contrat marketing. Mais c'est vrai que financièrement, tout n'est pas rose non plus pour Enfin, si tout est rose, parce qu'on parle de millions d'euros, mais c'est pas aussi idéal que prévu pour Kylian Mbappé au Real. Donc cette clause-là, on peut aussi le lire sur le. Voilà, Mbappé a compris que la situation actuelle faisait qu'un transfert au Real devient de plus en plus compliqué. C'est une porte de sortie, un matelas de sécurité. Mais moi, j'imagine très, très mal le Paris Saint-Germain dire oui à tout. Il y aura forcément un cadre. Il ne sera peut-être pas légal, mais il y aura des choses qui vont être discutées sans aucun doute autour de ce cas-là.
En tout cas, la sortie de Leonardo, ce qui est clair, c'est que Paris se sent fort dans ce dossier-là maintenant, ouais. A repris la main autant, tu l'as dit, sur le terrain, que je pense aussi le contexte actuel fait que Paris, aujourd'hui, c'est sans doute la meilleure solution pour Kylian Mbappé, en tout cas à court terme. Et cette sortie de Leonardo, à mon avis, elle a l'air comme ça, à mon avis.
La meilleure preuve de ça, Martin, et on en témoigne l'actualité de la semaine au niveau du mercato, c'est le cas David Alaba, où le Paris Saint-Germain est cité comme un vrai client dans le dossier, parce que sportivement, le projet proposé à Alaba est presque aussi emballant que le projet proposé par le Real Madrid, qui est le favori dans ce dossier-là. Donc, auparavant, on citait Paris parce que ça faisait grimper les enchères et que voilà, Paris était toujours associé à ces grands noms-là, mais les chances de voir arriver ces joueurs-là étaient quand même assez faibles. Là, dans le dossier Alaba, Paris répond présent sur d'autres arguments que uniquement le financier et le salaire.
Oui, parce qu'on le rappelle, hein, le Real et le Barça sont dans des projets entre deux cycles, on va dire. Ouais. Paris, ils ont Mbappé et Neymar qui restent très jeunes, qui ont de belles années devant eux. Ce n'est pas le cas de Modric, ce n'est pas le cas de Benzema, ce n'est pas le cas de Piqué qui vieillissent beaucoup. Je ne parle même pas de Busquets qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Et donc, c'est à voir à travers ce prisme-là. On a fait le tour, Cyril. On va continuer à parler Ligue 1. Choc du week-end, OM-OL, ce sera dimanche. Et cette question, la rivalité OM-OL, est-ce qu'elle a abîmé Marseille? Parce que Marseille a couru derrière Lyon, ce sont deux clubs qui se sont un peu écharpés. Ouais. Fais-nous un petit retour historique rapide, Cyril, sur les déclarations des présidents.
Ouais, en fait, c'est disons que les présidents marseillais, pour un petit peu, je dirais pas que c'est populiste, mais en tout cas pour faire front et pour mettre tout le monde. Se mettre tout le monde dans la poche, avaient tous décidé de cibler évidemment Jean-Michel Aulas. Alors il y avait eu Pape Diouf avec l'affaire Ribéry qui avait plus ou moins traité Aulas de guignol. La Brune en 2015 qui avait écrit à la Fédération pour demander que Aulas arrête ses agissements néfastes, ce à quoi Aulas lui avait répondu dans un tweet plein de jolis mots. Et évidemment, Jacques-Henri Hérault, il n'a pas eu une stratégie autre. Il y a 2 ans ou 3 ans, il avait qualifié Aulas de Don Giovanni Michele. Donc voilà, vous comprenez la notation, la connotation mafieuse un petit peu derrière ça, en affirmant qu'il avait une impunité absolue dans le football français. Ce qui est intéressant de noter, c'est que tous ces présidents-là ont choisi d'affronter frontalement Jean-Michel Aulas, et aucun d'entre eux n'est réellement sorti gagnant de ce combat-là. La preuve en est, c'est que Vincent Labrune, qui est devenu président de la LFP ces dernières semaines, a dû faire amende honorable dans la presse en affirmant avoir le plus grand respect, évidemment, pour Jean-Michel Aulas, etc. Donc, ils ont tous surjoué un petit peu cet affrontement vis-à-vis du président lyonnais, mais ça les a, en tout cas, personnellement, desservis, parce que le vrai enjeu était peut-être sans doute ailleurs, Martin, parce qu'entre Marseille et Lyon, il y a une vraie différence de modèle. Et les présidents marseillais ont un petit peu traîné des pieds pour coller aux vertus du modèle lyonnais.
Alors, c'est deux cas différents. Et je ne pense pas qu'on puisse assimiler le modèle lyonnais au modèle marseillais, parce que ce sont deux villes, deux histoires, de publics différents. Mais moi, ce que je retiens, c'est que la crise actuelle d'identité, parce que pour moi, c'est avant tout une crise d'identité que traverse l'Olympique de Marseille, cette OL-là ne l'a jamais traversée, ne la traversera jamais, ne peut pas la traverser. Parce que Lyon a grandi, est devenu un grand club européen, parce que ça l'est devenu, en restant attaché à ses racines. Ce que Marseille, Marseille dans un virage, a un peu de mal à négocier ce virage-là. Les Lyonnais se reconnaissent dans l'OL, se sont toujours reconnus dans l'Olympique lyonnais. Déjà, au niveau des supporters, du dialogue avec les supporters, Jean-Michel Aulas s'est souvent fait critiquer par ses propres supporters, à l'époque Genesio, même à l'époque du début de Garcia, mais il y a toujours eu un dialogue. Et il a toujours intégré les supporters dans ses réflexions, Jean-Michel Aulas, ce qui est le moins le cas de Jacques-Henri Hérault actuellement. Et il a fait grandir le club en gardant ses racines-là, et c'est hyper, hyper important. Alors, on l'a dit dans les tribunes, sur le banc aussi, avec des entraîneurs du cru, je pense à Garde notamment, et sur le terrain, évidemment, en mettant en scène des joueurs qui sont nés à quelques kilomètres, soit de Gerland, soit du Groupama Stadium, les Guezal, les Lacazette, les Umtiti, les Tolisso, les Fekir, je ne vais pas tous vous les faire, les Ferry, voilà, qui sont nés aussi à l'Académie OL. Et donc, c'est un club qui a su incarner l'identité lyonnaise, ce qui n'est pas le cas de l'OM, ce qui est le gros problème de l'OM actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de faire grandir le club, ça c'est sûr. Il y a un travail marketing qui est fait autour de ça. Mais à Marseille, alors après, c'est beaucoup plus compliqué à Marseille qu'à Lyon, mais on n'a pas su aborder ce virage-là. Je pense que le nœud du problème aussi, c'est qu'il y a l'incarnation suprême. Voilà. À Lyon, il y a un chef, il y a un président, c'est lui qui prend les décisions, et ça ruisselle derrière. Et il y a des relais efficaces. Il y a des garde-fous, etc. C'est beaucoup moins le cas à Marseille. Et s'il concentre quelque chose, Jacques-Henri Hérault, c'est les critiques autour de lui. Et il n'a pas la légitimité pour se défendre, etc. Donc le modèle lyonnais, en ce sens-là, pour moi, est hyper vertueux et hyper efficace. Et je pense que Lyon n'aurait jamais traversé, encore une fois, la crise que traverse Marseille aujourd'hui.
Tu parlais de garde-fous et de un petit peu de matelas de sécurité. Il y a aussi l'histoire du stade. Voilà, le modèle lyonnais fait que Lyon est propriétaire de son Groupama Stadium. Il a mangé un petit peu son pain noir pendant un temps pour se le financer, mais désormais, quand le public sera amené à revenir, Lyon.
Mais t'imagines ça à Marseille, excuse-moi de te couper, mais t'imagines à Marseille, un mec venir et dire OK, bon pendant 2-3 ans, on va financer le stade, donc sur le marché des transferts, ça va être.
C'est beaucoup plus compliqué, évidemment.
C'est beaucoup plus compliqué, c'est très, très compliqué, mais Lyon y est arrivé. Et je pense que c'est peut-être ce modèle-là qu'il fallait suivre, justement.
Il y a quelque chose d'intéressant sur Lyon, tu l'as mentionné, mais moi, en tout cas, en termes de motif d'espoir pour les supporters lyonnais, il y a toujours eu ce centre de formation. C'est-à-dire que même dans les périodes creuses, même dans les saisons un peu plus compliquées, il y a cette capacité qu'à Lyon de faire venir des joueurs. C'est un modèle vertueux, voilà, c'est un cercle vertueux, de faire arriver des jeunes joueurs, les faire grandir avec le club, qu'ils apportent instantanément à l'équipe première ou en tout cas sur le temps, et qu'ils continuent d'apporter après en les vendant très très cher à l'étranger. Ce centre de formation-là, pour moi, c'est vraiment le matelas ultime, et Lyon a eu recours avec à l'époque de Rémy Garde, avec Lacazette, Fekir, Tolisso, etc. Mais même beaucoup plus récemment, pensez à la saison dernière, avant que Lyon arrive en demi-finale de Ligue des Champions, la saison lyonnaise, elle était un petit peu pourri, mais il y avait cette perspective, ou en tout cas cet espoir, parce que dans une période de crise, c'est toujours important d'avoir voilà, une petite note d'espoir quelque part. Bah, il y avait cette capacité de se dire, bon, bah, au moins la saison prochaine, on repartira peut-être de zéro. Ça n'avait pas été finalement le cas. Non. Mais si on repart de zéro, ce sera avec des Gouiri, ce sera avec des Kakré, ce sera peut-être avec des Cherki. Et donc, bah, ça participe à l'identification, qui est le mot-clé que tu as utilisé là. Et moi, ça, je pense que c'est vraiment ce qui manque encore à l'Olympique de Marseille, même si ça va un petit peu mieux dans ce domaine-là. Il y a quand même un gros manque pour Marseille à ce niveau-là. Et puis, il y a une dernière chose, Martin. Mine de rien, ce qui a beaucoup joué ces dernières saisons pour l'Olympique lyonnais, c'est cette présence presque systématique en Ligue des Champions.
Oui, je sais la tradition pas européenne. Si... Mais ce qui, voilà, ce qui avait... Marseille s'en est coupé parce que Marseille était un grand club européen. Voilà. On a vu les deux dernières campagnes. Saisons... Bah, voilà, la dernière et l'avant-dernière, c'est un cataclysme.
Je pense que c'est impossible aussi. Tu parlais de la crise actuelle vécue à Marseille. Je pense qu'il aurait été très compliqué d'imaginer une équipe de Lyon avec aussi peu de points à la fin d'une phase de poule. Je ne dis pas qu'ils se seraient qualifiés dans cette poule-là, je n'en sais rien. Mais je pense qu'en termes de comportement et d'attitude, on n'aurait pas pu voir ce qu'on a vu du côté de Marseille cette saison.
On est bien d'accord, Cyril. En tout cas oui, tu allais rajouter quelque chose ?
Non, mais on peut peut-être préciser quand même qu'on parlait d'espoir. Il y a quand même des domaines où l'OM va un petit peu mieux sur les derniers mois. C'est cette capacité d'aller chercher des bons coups sur le mercato, des joueurs en post-formation, je pense à Gueye, des gros coups, un Milik, ça ressemble presque à un Depay de l'époque. Donc voilà, on en parlait en off avant l'émission, Martin, mais c'est un petit peu Longoria, c'est un petit peu le super scout, l'équivalent d'un Florian Maurice qu'il y a eu pendant longtemps du côté de Lyon, avec cette capacité à bien revendre et surtout à identifier des profils qui apportent instantanément à l'équipe première de l'Olympique de Marseille.
Et de toute façon, on a parlé des modèles que doit ou ne doit pas suivre l'Olympique de Marseille. Il y avait le modèle Dortmund à une époque. Moi, je pense que c'est très compliqué d'appliquer quelque chose à Marseille, de toute façon. Parce que ce qui fait la force de ce club, c'est sa spécificité. C'est qu'aujourd'hui, un modèle qui réussit dans un endroit, tu ne peux pas l'appliquer de la même façon à Marseille. C'est ce qui fait la grande force, mais peut-être aussi la faiblesse de cet OM-là, sa particularité. En tout cas, c'est là-dessus, sans doute, qu'il faut travailler avec les supporters. Et c'est sans doute ça que, comme ça que le club s'en sortira.
Parce que, ouais, on parlait de certains manques côté lyonnais, mais je peux vous dire que côté lyonnais, avoir un public aussi dense que celui de Marseille et qui est une force aussi importante. Rappelez-vous que voilà, quand le Vélodrome est en fusion, Martin, c'est pas toi qui vas me contredire, ça vous fait pousser des ailes, hein, et toutes les équipes vous l'ont dit. Et réécouter les Bleus lors de l'Euro 2016, la demi-finale face à l'Allemagne sans un Vélodrome en fusion, je sais pas si elle se passe de la même façon.
Ça, c'est certain. Bon allez, on va filer de l'autre côté de l'Atlantique parce que Thierry Henry n'est plus l'entraîneur de Montréal et on a décidé d'interroger un journaliste qu'il le connaît sur le bout des doigts, qu'il avait au téléphone avant chaque match. Un journaliste qui a vraiment suivi épopée, c'est loin d'être une épopée, mais cette aventure, voilà, Thierry Henry du côté de Montréal. Essayer d'avoir un avis objectif parce que nous en France, on est un peu biaisé par l'aventure monégasque qui s'était très mal passée. Quel bilan pour Thierry Henry à Montréal ? La réponse tout de suite.
Allez, on va poursuivre cette émission avec un invité de marque, Frédéric Laure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commentateur des matchs de Montréal, donc fin analyste de Thierry Henry et des matchs donc, qu'il a fait sur le banc de Montréal. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour Eurosport.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Ma première question, elle est simple. Est-ce que du côté de Montréal, on s'attendait à un départ de Thierry Henry?
En fait, vous m'auriez posé la question il y a deux semaines, je vous aurais dit non, mais depuis deux semaines, en marge, en quelque sorte, ou du moins, je pourrais dire en parallèle avec ces rumeurs qu'il envoyait dans le championnat anglais, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ce qui courait depuis deux semaines, qu'il y avait des problèmes personnels, Thierry Henry, assez particuliers, parce que vous le savez assurément, c'est un coffre-fort, c'est une voûte quand il s'agit de parler de lui-même et parler de sa famille et de ses proches aussi, Thierry Henry, mais ça avait coulé. Et l'idée, l'expectative de passer encore plusieurs mois, justement, sur la route, confiné dans un hôtel avec son équipe, c'était sûrement pas quelque chose qui allait convaincre Thierry Henry de rester ici à Montréal présentement.
Alors, en tout cas, l'aventure est terminée. Désormais, c'est officiel, hein, puisque le club l'a officialisé. C'était jeudi. Mon autre question, elle est simple, c'est pour vous, quel est le bilan de Thierry Henry, sur le banc de Montréal.
Mais, sachez que je vois avec mon prisme nord-américain et pas le prisme français. On en a
c'est
fait
ce qui m'intéresse.
Plusieurs. Oui, on en a fait plusieurs. On a fait plusieurs comparaisons ou études comparatives, si on peut appeler ici, entendez les guillemets. Mais j'ai l'impression que la réputation de Thierry Henry en France était beaucoup, ou du moins le brand, si on peut appeler le brand Henry en France, souffre beaucoup plus que celui du brand Henry à Montréal. Ici. C'était une saison où, en fait, une saison qui n'existe pas, qui existe probablement dans un univers parallèle, parce que l'Impact avait bien commencé sa saison. Il faut souligner ça à propos de Thierry Henry. Un bon passage avec un effectif qui était vraiment là, un des pires effectifs, à mon avis, en MLS, parce qu'il était dépareillé, des joueurs d'un peu partout et n'importe quoi aussi dans cet effectif. Alors, c'est comme ça que Thierry Henry arrive à Montréal, offre de bonnes performances en Ligue des champions aussi, d'ailleurs passe le premier tour auquel il est confronté avec une préparation encore là tronquée, arrive aussi en championnat avec Nouvelle-Angleterre, une victoire à domicile et presque une victoire sur la route aussi alors qu'il menait 2-0 à Dallas. À ce moment-là, on se disait, ça y est, l'Impact n'est pas une équipe de fond de classement, mais bien peut-être une équipe de milieu de tableau qui pourrait prétendre à la 4e, 5e position dans l'Est ici en MLS. Alors, survient la pandémie, je ne vous apprends rien, et 3 mois de confinement, et ça met la hache dans tout ce que Thierry Henry avait tenté de mettre avec son équipe aussi à ce moment-là. Il y a des équivalents, je pense à Ronnie Delia aussi au NYCFC qui a eu plusieurs difficultés cette année dans une année COVID. C'était un entraîneur de première année aussi en MLS. Alors, l'Impact a changé sa physionomie, a changé son identité. Sur Emigard, c'était défensif. C'était, comme on dit ici, plate, ennuyant. Mm-hmm. C'était des 1-0 ou des 0-0 arrachés par la force du réalisme ou du garde-à-vous, ou l'expression, je pense, c'est de mise aussi. Pour Thierry Henry, c'était jouer vers l'avant aussi, c'était être se sublimer aussi, aller et offrir aussi une complexité tactique avec un effectif qui n'était peut-être pas à la hauteur des ambitions sportives de Thierry Henry. Alors, au final, cette longue parenthèse pour vous dire que c'est difficile de franchement évaluer le travail sur une année de Thierry Henry, particulièrement l'année pandémie, mais je pense qu'il peut ressortir de Montréal avec quand même assez de positif.
Alors, parce que si on ne s'en tient pas qu'au palmarès ou qu'au résultat, si je comprends bien, il y a quand même une empreinte dans le jeu. Il y a un style Thierry Henry qui s'est détaché. C'est peut-être ça sur quoi il faut insister.
Oui, c'est ce qu'on sent et c'est ce qui donnait le plus, ce qui était le plus positif dans la prochaine année du CF Montréal, à savoir dans cette deuxième année, avec un entraîneur qui veut aller vers l'avant aussi, qui a mis au défi certains cadres de l'équipe qui se sont réinventés. Je pense à Samuel Piette, qui est un international canadien, qui est un joueur important pour cette équipe-là, qui l'a mis au défi et qui s'est carrément réinventé sur une saison aussi, grâce, dans une certaine mesure, à Thierry Henry. On était enthousiasme de voir ce que pouvait donner une en deux pour Thierry Henry. Peut-être petit bémol aussi, et c'est là que je rejoins l'image que vous avez de Thierry Henry, la personnalité publique, son rapport avec les journalistes au quotidien. Ça n'avait pas été sans heure, bien au contraire. Il a cette façon de répliquer, cette exigence envers lui-même qui peut être parfois, dans le langage, ressortir comme un peu de condescendance ou un peu d'antagonisme en quelque sorte. Ça, c'était une chose qu'on pourrait mitiger aussi à cause de la pandémie, à cause des réunions Zoom et à cause de la façon qu'on a de communiquer. Mais c'était quelque chose sur lequel, dans un contexte aussi où on a changé l'emblème de l'équipe, on a effectué un virage aussi au niveau de la marque, au niveau de l'image chez l'Impact / le CF Montréal. Ça aurait été probablement un enjeu pour Thierry Henry et un endroit où il y avait une grande marge de progression pour lui.
En France, qu'on lui a reproché un peu à Monaco, hein, puisque c'est uniquement là qu'on l'a vu sur un banc d'entraîneur principal, c'est qu'il avait peut-être du mal à... Il n'avait pas encore fait tout à fait sa mue entre joueur et entraîneur. Il avait encore des réactions de joueurs sur le bord du terrain. On avait cette impression-là. Est-ce qu'au terme de son aventure avec Montréal, vous avez l'impression qu'il a mûri dans ce nouvel emploi qui est le sien désormais? Est-ce qu'il a endossé pleinement le costume d'entraîneur principal?
C'est difficile à dire parce que ça... ça s'inscrit dans une trame narrative, une histoire qu'on veut bien embrasser ou pas. C'est sûr qu'il y avait encore, on avait encore l'impression d'avoir ce rapport-là de joueurs ou cette exigence envers certains joueurs. Vous avez sûrement vu une vidéo où Bojan rate une frappe devant le filet facile et il explose et il frappe littéralement et kick une bouteille d'eau aussi pour marquer son le fait qu'il était irrité par ça. C'est difficile à dire. Je sais que dans son rapport aux joueurs, je pense qu'il était assez ouvert. Il me l'a dit plusieurs fois lui-même parce que j'avais le privilège de lui parler avant les matchs aussi, de façon seul à seul. C'est le côté humain dans lequel il a le plus appris ici à Montréal. Et j'insiste encore, on ne s'en sort pas. Hein. C'est dans le contexte de la pandémie, il a géré des hommes. Et en ce sens-là, peut-être qu'il est devenu, et j'ose croire qu'il est devenu à Montréal, un meilleur manager, un meilleur, au-delà du technicien, au-delà de celui qui est capable d'y aller d'une tactique qui peut surprendre ou qui peut faire fonctionner un club. Je pense qu'il est devenu un meilleur manager, un meilleur gestionnaire d'hommes. Il y a ça. Je sais aussi qu'il est aux entraînements, même si on n'avait pas accès aux entraînements ici compte tenu des restrictions, je sais qu'il participait souvent aux entraînements quand il manquait un joueur aussi dans l'équipe. Alors, est-ce que c'est un défaut que de justement s'inscrire là-dedans quelques années seulement après une retraite, quand c'est un des meilleurs joueurs au monde et qu'il est sur le plan physique? Je l'ai vu aussi encore irréprochable à son âge. Moi, je lui en tiendrai pas rigueur. Et cette mue, est-ce qu'elle est complète? Sera-t-elle jamais complète? Et n'est-ce pas, j'ai goût de renvoyer la question, n'est-ce pas là peut-être un atout pour un joueur de la trempe de Thierry Henry?
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous semblez, en tout cas en MLS, un peu moins sévère qu'ici en Europe, mais c'est parce qu'aussi, sans doute, il est loin de nous. Donc, on l'a vu à Monaco, ça s'est très mal passé. Il n'était sans doute pas le seul responsable, hein, puisque ce qui s'est passé après, ça ne s'est pas beaucoup mieux passé. Ce qui s'est passé avant, ça ne s'est pas beaucoup mieux passé. On a l'impression que vous êtes peut-être moins sévère avec lui que nous.
Mais j'insiste, il est arrivé dans un contexte aussi, hein, l'impact est sur une séquence aussi vivote depuis quelques années dans l'identité, dans la façon de faire. Ça explique notamment ce changement d'emblème, ce changement de marque et de brand là, dont je vous parle depuis le début. Et j'insiste d'être réaliste et de rendre à Thierry Henry ce qui lui revient. Ça n'a pas été un énorme succès. Il ne faut pas non plus repartir avec cette idée-là que Montréal a été une campagne extraordinaire. Mais je pense que c'est justifiable et justifié de moduler ses attentes et de moduler sa grille de perception en fonction de la pandémie. Parce que j'insiste, probablement, et j'ai beau jeu de le faire, mais probablement qu'il existe un univers parallèle où il n'y a pas de pandémie et Thierry Henry, on aurait pu prendre la vraie mesure de l'entraîneur sur une saison. 3 mois d'arrêt alors qu'on avait fait 2 mois de préparation et que ça semblait fonctionner, mais qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup à changer de cette vieille culture parce qu'il prenait cette équipe-là, j'insiste, de Rémi Garde, qui était pas un mauvais entraîneur, hein, mais qui était, à mon avis, à l'opposé sportivement et de la façon de faire de Thierry Henry. C'est difficile d'être... je trouve difficile d'être sévère envers lui. Je préfère être juste plutôt que... Je pense pas que j'ai des lunettes roses en disant ça. Oui, c'est mon impression.
Merci beaucoup. En tout cas, c'était fort intéressant. Parce que c'est vrai que l'analyse est très contrastée avec ce qu'on dit nous ici. Donc, en tout cas, c'est bien d'apporter un contre-point de vue. Merci beaucoup.
Vous savez, c'est Lilian Thuram, dans une entrevue, qui me disait ça à propos de Thierry Henry. Il est très exigeant envers lui. Ça vient entre autres de son père, dont il parle régulièrement depuis les nuits des temps aussi. On en a pris la mesure aussi. Et ça donne une perspective différente des rapports humains et des rapports footballistiques qu'il entretient. Et je pense qu'on l'a vu l'année dernière à Montréal.
Merci, Frédéric.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
Voilà, Martin, on aura compris que finalement, il faut peut-être considérer l'avenir de Thierry Henry en tant que manager comme quelque chose de sérieux et rien d'impossible. On parle de lui notamment en Angleterre pour Bournemouth. Rien d'impossible de voir Henry retrouver un banc d'ici peu.
On rappelle que Bournemouth a signé un entraîneur jusqu'à la fin de saison, mais on verra pour la suite. Mais en tout cas, C'est vrai que son avenir semble s'inscrire Championship ou en Première Ligue. On verra pour Thierry Henry.
On a fait le tour, Martin. C'est la fin de ce FC Stream Team. FC Stream Team à retrouver tous les vendredis sur les plateformes d'écoute, Spotify, Acast, Apple Podcast, etc., etc.
Merci.
Vous commentez, vous notez, vous partagez.
Merci à Simon derrière la caméra et merci à Quentin au visuel. Absolument.
Merci à toi, Cyril, d'avoir remplacé avec brio Maxime Dupuis. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Hein, pas se raconter d'histoire, c'est pas non plus. Voilà. Ça a été plutôt simple. Et tu m'as rappelé David Trezeguet en finale de l'Euro 2000. Cyril, cette efficacité, ce geste juste, tu es plus qu'un remplaçant, Cyril, dans mon cœur. C'est déjà pas mal, sache. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sans toi, Cyril, malheureusement, mais avec Maxime. D'ici là, venez sur les antennes d'Eurosport, sur eurosport.fr, pour consommer du sport tout le week-end et toute la semaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Salut tout le monde.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.